Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon d'agriculture Porte de Versailles à Paris. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en vacances, elle a bien raison. Elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, Alfred Orange, journaliste RMC qui nous donne toutes les infos pour tout comprendre. Daniel Riolo, journaliste RMC, Perico Legas, journaliste à Marianne. Et Yaël Mellul, ancienne avocate et présidente de l'association Femmes et Libres. Dans un instant, l'immigration et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui veut durcir les conditions du regroupement familial. A-t-il raison? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, l'effondrement de la filière bio, la filière agricole bio en France. Le bio a-t-il encore un avenir? À 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. Et puis, on joue, Alfred.
RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve. Mercredi 8 mars, le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Eh bien, nous vous offrons la possibilité de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Moussaïef de l'After Foot, la rencontre avec Jeannot Rességui avant le match et votre place pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC dès que vous entendez ça.
Le but de Kiki, de Kylian Mbappé.
Jeannot Rességui.
Exactement, à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
Le hola du jour, hola prononcé par Gérald Darmanin qui veut durcir les conditions du regroupement familial pour les étrangers qui viennent s'installer en France. Alfred, que propose exactement le ministre?
Alors, auditionné par le Sénat, le ministre de l'Intérieur s'est dit notamment ouvert à de nouvelles mesures pour limiter ces regroupements. Deux pistes tiennent la corde. La première, c'est de redéfinir les conditions d'accueil, c'est-à-dire de s'assurer que la personne qui reçoit et qui accueille dispose d'un logement suffisamment grand et d'un salaire suffisamment important pour absorber ces arrivées. L'autre piste serait d'imposer des tests linguistiques aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial, en gros qu'elles sachent parler un minimum le français. L'idée pour le ministre, c'est de lutter contre les abus. Autrement dit, pour lui, fini les demandes pour les demi-frères ou les demi-sœurs. Le ministre veut limiter cette réunification à la stricte famille, au sens français du terme, dit-il. C'est-à-dire, si on prend la définition, aux personnes apparentées vivant sous le même toit.
Faut-il durcir les conditions du regroupement familial? C'est la question qu'on vous pose. Vous nous appelez au 32-16. Perico Legas, on est trop laxiste en France?
Il était temps. Il était temps. C'est une loi qui a posé polémique dès son adoption en 78 par le président Giscard d'Estaing. Le droit au regroupement familial est un droit pour tout travailleur étranger qui vient sur une longue durée en territoire français. Il est normal qu'à un moment donné, s'il s'installe durablement, sa famille le rejoigne. Mmh. Son épouse, ses enfants, voilà. Ça, c'est la norme, c'est l'esprit de la République française. Cette loi, à l'époque, les enjeux de l'immigration n'étaient pas les mêmes, a été extrêmement ouverte et a laissé des marges de manœuvre qui ne suscitaient pas la méfiance au départ. Et des populations entières d'immigrés se sont dit, mais en fait, c'est l'occasion de venir en France dans des conditions totalement dérégulées, déréglementées, et de faire venir des gens qui n'avaient rien à y faire. Ça a provoqué quoi? Ça a provoqué une hostilité à l'immigration, parce que c'était une immigration qui, du coup, n'était pas abusive, qui n'était pas intégrée. Et les problèmes de l'immigration qui ont engendré ensuite cette crispation dans la société française avec le vogue d'extrême droite est venu de la mauvaise gestion de ce regroupement familial. Donc, je trouve qu'il est déjà très très tard. On ne réparera pas les dégâts qu'ils ont subis, mais si on peut à partir d'aujourd'hui repenser cette loi du regroupement familial uniquement au profit des travailleurs étrangers qui sont là en France, des immigrés dont nous avons besoin, qui participent à la richesse de la France et qui ont droit d'avoir leurs proches avec eux. Mais attention, la polygamie a contourné l'obstacle et vous avez des familles polygames qui se sont constituées parce qu'on n'avait pas mis les garde-fous. Donc il est temps que la République mette un nez républicain dans le regroupement familial, soit sévère, absolument et sans concession, de façon à ce que les travailleurs immigrés qui sont en France et qui participent à notre richesse aient le droit de vivre avec ceux qu'ils aiment et leurs proches.
Daniel Riolo. Je ne vais pas avoir grand-chose à redire à ce que vient de dire Perico, parce que je suis d'accord avec lui. Donc j'ai bien compris que les conditions, qu'on allait passer par des conditions plus strictes pour ce contrôle.
Savoir si c'est vraiment la famille, quoi. C'est
exactement, tout. Qui se veut être un contrôle des
c'est
flux,
quoi,
qui aurait pour but l'amélioration de l'intégration des nouveaux venus. Mmh. Et donc, effectivement, là, je rejoins totalement Perico, il était temps, parce que le sentiment, je pense, dans une large part de la population, c'est même au-delà qu'il faudrait presque cesser l'immigration, même si à cela on rétorque qu'il va y avoir un besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs, comment on les appelle ces secteurs là, c'est restauration et bâtiment,
oui, oui.
En souffrance,
entre autres,
ou en tout cas
en pénurie, pénurie de manœuvre,
en tension. Je cherchais l'expression exacte. Voilà. Mais effectivement, si ce besoin doit faire qu'on ouvre des frontières à des nouveaux arrivants, effectivement, derrière, cela va nécessiter un contrôle. Parce que sinon, si on ouvre et qu'on ne contrôle pas, sans condition, au bout de combien de temps? Alors, j'ai vu que dans les conditions, il y avait également le salaire. Est-ce qu'il peut subvenir aux besoins de ceux qui viennent? Est-ce que le logement est assez grand pour que l'accueil se fasse comme il faut? Toutes ces conditions-là qui sont dans le projet de loi de Darmanin me semble frapper du sceau du bon sens, même si j'ai appris récemment, Perico, je ne sais pas si tu es au courant, que l'expression « le bon sens » a désormais été cataloguée par la gauche dans le rang des fachos.
C'est fasciste.
T'es pas au courant?
Le bon sens est devenu fasciste.
T'étais au courant?
Mais de bonne source, il était depuis très longtemps déjà, c'est pour ça.
Oui, mais moi, c'est récemment que j'ai entendu que c'était revenu. Là, maintenant, dès qu'on évoque
la République,
dès qu'on évoque le bon sens, on est immédiatement catalogué.
Yael Mellul, est-ce qu'on est trop
laxiste? Je ne savais pas si c'est horrible.
Bon sens, c'est fasciste. Maintenant, on le sait. Yael Mellul, est-ce qu'on est trop laxiste en matière de regroupement familial pour les gens, les étrangers qui viennent s'installer en France?
J'en sais rien, en fait, parce que moi, je ne connais pas précisément les propositions de M. Darmanin, en définitive.
Bah, si, on les connaît.
Non.
C'est des conditions. Il faut qu'il y ait un salaire suffisant, un logement grand, et que possiblement, il va vérifier si on sait parler français ou si on connaît la culture française.
Yeah. Oui, mais toujours, le diable, il est toujours dans le détail. Il dit, il faut un logement plus grand. OK. Combien de mètres carrés, le logement? Il faut une rémunération plus forte. Combien la rémunération?
Il faut commencer plus haut, parce qu'il dit qu'il faut redéfinir le sens du mot famille. C'est quoi, famille?
Absolument. Quelle est la définition, la délimitation stricte de la famille?
La question, c'est est-ce que la volonté de contrôle de sens est une bonne chose ou pas?
Il faut une condition de présence plus longue en France. Combien de temps?
Non, mais ça va être précisé,
ces précisions qui vont être le plus importantes, parce que si elles sont exorbitantes, si elles sont trop lourdes, si elles sont difficilement respectables, de fait, on ferme les frontières.
Et alors, la personne saura.
C'est une manière détournée de dire stop à l'immigration, et c'est une manière pour Darmanin
de faire une manœuvre politicienne.
Et donc, d'aller vers l'électorat de droite et d'aller choper
l'électorat
du Rassemblement National. Et d'ailleurs, il l'a dit, Darmanin, il l'a dit à Marine Le Pen, vous êtes trop molle. Ah ben, il va plus loin que la maîtresse.
Si l'opinion est en phase, quel est le problème?
Aucun.
Et ben voilà.
Mais je suis pas certaine.
Je donne pas mon avis, mais l'opinion n'a pas toujours raison.
Je suis pas certaine, par exemple, que la NUPES. Je pense que ça va réactiver encore des débats animés.
Absolument. Évidemment, ça va réactiver les débats.
On vous pose la question, faut-il durcir? En tout cas, Gérald Darmanin veut durcir les conditions du regroupement familial. A-t-il raison? Vous nous appelez.
Rémi, quand tu parles de l'opinion, c'est les gens qui vont aller voter. Et je pense que la majorité des gens seront d'accord avec les conditions et avec ce projet de loi de Darmanin.
Il faut quand même
écouter ce que veulent les Français.
On est d'accord. Et c'est ce qu'on fait en les invitant à nous appeler au 32-16. Et Mehdi est avec nous. Salut Mehdi.
Bonjour tout le
monde. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Mehdi, vous nous appelez d'où?
De Lyon.
J'ai pas entendu.
De Lyon, je vous appelle.
Oui. De Lyon, on vous entend mal, Mehdi, faites attention, parlez bien devant votre téléphone. Donc Mehdi, de Lyon, vous faites quoi dans la vie ?
Comment ? Je ne vous ai pas entendu. Déjà.
Est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mehdi ?
Je suis chef de projet.
D'accord. Ouais, Mehdi, ouais, est-ce qu'on est trop laxiste en France avec le regroupement familial ?
Laxiste, faut définir ce que c'est laxiste, parce que pour quelqu'un qui veut faire venir sa famille en France, il faut déjà voir les règles qui sont déjà applicables. Moi, j'ai fait venir mon épouse il y a une dizaine d'années en France. Les conditions, c'était un truc de fou furieux. Il fallait avoir un logement avec une certaine superficie. Il y avait des enfants, il fallait un minima 10 mètres carrés par enfant supplémentaire pour la maison. Le salaire, il fallait avoir un SMIC écart pour juste ramener mon épouse. Derrière, s'il y avait des enfants, il fallait encore plus de salaire. Il y avait déjà des conditions de foule de très drastiques. On avait un inspecteur de l'OFI qui venait à la maison pour mesurer la maison, revoir les documents originaux, revoir tout le dossier qu'on a donné à la préfecture pour le regroupement familial.
Et ça a pris combien de temps tout ça ?
Plus d'un an.
Mais vous avez trouvé ça exagéré ou au final, maintenant vous êtes installé, vous êtes en famille et tout va bien, finalement, les conditions, il n'y a rien à redire dessus.
Ça fait 20 ans que je suis en France, donc moi, je suis installé, intégré, tout ce que vous voulez. Je travaille même dans des milieux qui sont plus ou moins restreints en termes d'accès et de sensibilité. Donc c'est pas un souci en termes d'intégration, mais je trouve qu'aujourd'hui, durcir plus que ça, c'est dire aux gens, ok, la personne qui est en France, qui est venue pour X raisons, parce qu'il avait ses parents qui étaient là, il a choisi de se marier avec une étrangère ou quelqu'un à l'étranger ou autre, vous laissez on veut plus de personnes en France, quoi. Parce que là, imaginez-vous.
Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, Mehdi, dans le sens où, effectivement, si on durcit le message qui est envoyé aux personnes qui veulent venir, c'est réfléchissez.
Ouais, c'est ce que disait Yael. C'est ce que disait Yael.
Mais absolument.
Le message envoyé, c'est quand même de dissuader ceux qui veulent venir en France de s'y installer.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas hypocrite et qu'on a tous compris que le message était celui-ci. Mais quel est le problème du message, après tout ? Quel est le problème du message ? Je vois pas en quoi c'est un problème que de dire que il y a peut-être pour les métiers en tension qui vont conduire à une sorte d'immigration choisie. En quoi c'est un problème ? J'ai le sentiment que la population française est contre ça ? Je ne le crois pas.
Et justement, on va poser la question. Alors je remercie Mehdi de nous avoir appelé au 32-16 et on va poser la question à Tania Racho qui nous rejoint. Bonjour Tania.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée en droit européen à l'Université Paris-Saclay, membre de Désinfox Migration. Merci de nous rejoindre encore une fois dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Tania Racho, Gérald Darmanin veut durcir les conditions du regroupement familial pour les étrangers qui s'installent en France. Est-ce que c'est choquant ?
Alors, c'est déjà assez étonnant que la discussion arrive maintenant, puisqu'elle n'avait pas du tout été prévue dans le projet de loi initial. Mais ça a été dit, on voit bien que l'objectif, c'est de plaire à un certain électorat. Et au-delà de ce côté un peu surprenant, et comme d'ailleurs Mehdi l'a justement relevé, finalement, ce qui est proposé existe déjà très largement. Il faut quand même dire que les conditions sont déjà drastiques. Elles exigent déjà de certaines ressources un logement assez grand et l'existence d'un titre de séjour d'au moins un an avec des perspectives de séjour permanent.
Darmanin dit oui, mais bon, on est allé trop loin. Aujourd'hui, on voit des personnes qui font venir leurs demi-sœurs, leurs demi-frères. Ça, c'est plus possible. Il faut redéfinir le sens, délimiter la famille. Est-ce qu'il a raison ?
C'est déjà délimité, en fait. C'est délimité et très limité, même en France, puisque c'est le conjoint marié. J'ai entendu aussi les histoires de polygamie qui ont été bien prises en compte. C'est un seul conjoint marié, il ne peut pas avoir plusieurs époux ou épouses, selon le point de vue qu'il puisse rejoindre, et les enfants mineurs. Donc c'est vraiment déjà très limité.
Ça, c'est la base.
Après, il y a des.
Ah oui, mais c'est déjà délimité.
Ça a été contourné. Non, mais finalement, il n'y a pas de problème. Alors, si le seul problème, il est politique, c'est de parler à un certain électorat, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça ne veut pas dire que parce que.
Quel est le sens ?
Si le débat public en France, c'est à chaque fois, c'est de dire si certaines personnalités politiques disent des choses, ils sont forcément diabolisés et on n'a pas le droit de se pencher sur ce qu'ils disent, il n'y aura pas de débat au fond.
Et moi, j'entends ce que dit Tania Racho. Elle nous dit qu'aujourd'hui, Il y a déjà des limites bien définies.
Et donc quel est le problème alors? Donc il n'y a pas de problème alors?
C'est pas ça. Moi, je me pose une autre question. Pourquoi ce discours de Gérald Darmanin à ce moment-là?
Oui, mais manifestement.
Parce qu'il veut ajouter des éléments.
Manifestement, il veut durcir.
Il veut durcir.
Il veut durcir. Voilà. C'est quoi? Bah, on met fort au groupement familial alors.
C'est précisément ce qu'il a dit ce matin, je crois.
Voilà. Il veut le durcir et il veut s'accorder avec LR, avec LR à l'Assemblée pour faire passer ce projet.
Tanira Chaud. Quel est le sens des propos de Gérald Darmanin? Moi, je vous entends. Vous me dites que déjà, c'est extrêmement restreint à la conjointe ou au conjoint marié et aux enfants mineurs. On est bien d'accord?
On est tout à fait d'accord.
C'est limité à ça?
Effectivement. Alors, il le dit, hein, il le dit de restreindre potentiellement dans les limites de la Constitution. Et donc, on ne voit pas très bien comment il pourrait restreindre davantage. Il a dit sur la question de la langue, mais ça ne correspond pas en fait à l'objectif. Juste, je rappelle deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a 35 000 titres de séjour à peu près qui sont délivrés chaque année pour le regroupement familial, donc on parle de 0,05% de la population française, et le débat se porte là-dessus, ce qui est quand même aussi très restreint quand même. De fait...
Et alors?
Parce que ça concerne toute personne.
Qu'est-ce que ça peut faire que ça porte sur 0, ou sur... L'important, c'est que ça porte sur un débat qui est utile.
Sur une question qui est minimaliste, finalement. En quoi il est utile? Et donc, l'autre aspect de restriction, peut-être, pour poursuivre, c'est de dire seuls les travailleurs, et vous l'avez mentionné, pourraient avoir le droit au regroupement familial. Ça, pour le coup, c'est pas possible juridiquement. La Constitution française met un obstacle là-dessus. Les engagements européens internationaux, parce que l'idée, c'est de dire... Si vous êtes un étranger, vous avez le droit à avoir une vie familiale comme n'importe quel Français, en fait. On ne peut pas dire, parce que vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit à avoir votre vie familiale. Bien sûr, il y a des conditions de perspective d'être là pour un moment et de ressources, comme on l'a dit, mais il faut bien garder ça en tête, quoi. On ne différencie pas le droit à avoir sa famille avec soi parce qu'on est étranger, en fait. Ça n'a pas de sens initialement.
Mais je crois que précisément, il a été évoqué par Gérald Darmanin qu'il voulait contrôler les entrées, contrôler et limiter le regroupement familial sans être contraire à la Constitution. Donc il n'y a pas de problème.
Mais c'est contraire. Il faut bien un minimum en même temps.
C'est contraire. Hein. C'est pas possible, justement. Ça a été rappelé régulièrement. Ça a été rappelé. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un débat sur les quotas d'immigration, c'est redit. Ça n'est pas possible juridiquement. On ne peut pas limiter le droit des gens à avoir une famille. On peut l'encadrer.
On le fera dans le cadre de la loi, alors.
Non, ça n'est pas possible. Ça serait pas conforme à la Constitution ni aux engagements européens. Donc, c'est pas possible.
Perico Legas.
C'est la façon dont on a abusé de ce droit humain fondamental. Que l'on ne peut pas refuser à un immigré quel qu'il soit. D'ailleurs, j'allais dire, il n'est pas question seulement d'être un travailleur. C'est quelqu'un qui vient vivre en France pour une raison donnée, a droit d'être suivi à sa famille si les conditions sont requises. C'est l'abus de ce droit au groupement familial dont il a été manipulé par des associations, par des partis politiques, qui a engendré une immigration sauvage et non contrôlée, qui elle-même a provoqué...
Alors là, moi j'ai lu ce matin, Tania Rachaud, vous venez de publier...
Justement, j'ai lu la tribune.
Une tribune dans le journal Le Monde, où vous remettez l'église au milieu du village, si j'ose dire.
Exactement.
La France, c'est le combienième pays au monde en matière d'accueil des étrangers? On est combien?
77e actuellement, alors qu'on est 6e puissance économique mondiale. Donc on a un petit décalage sur ce terrain, et c'est vrai que dans la tribune, ce qu'on dit, et ça rejoint aussi tous les avis autour de l'opinion, ce qu'on dit, c'est qu'en réalité, l'opinion aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, et les études démontrent qu'il y a une problématique de loupe sur les questions de migration. Je finis juste ça.
Il est trop tard pour sentir ce genre d'argument.
Chère madame,
écoutez-moi.
Attendez,
ça c'est la propagande idéologique. Il y a trop d'immigrés en France malheureux, maltraités, mal reçus à cause de gens comme vous. Voilà. Donc on va faire en sorte que ceux qui viennent soient traités de façon humaine et respectable.
Je te demande du respect, on laisse terminer Tania Rachaud et après tu peux réagir. Daniel, même chose. Daniel Rachaud.
Oui, pardon. Et donc cet objet, dans la tribune là, que vous avez mentionné, notre objectif, c'est simplement de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas reposer ces questions calmement, dans des débats apaisés, et organiser peut-être une convention citoyenne sur la migration pour voir ce qu'on pense réellement.
J'ai peur que les résultats n'aillent pas tellement dans votre sens. Alors, le titre...
Alors, les sont dans la bonne voie, mais ça paraît quand même assez intriguant.
Alors, le titre de la tribune, c'est « Immigration, ouvrez les guillemets, il est urgent de remettre de la raison et du débat démocratique dans le traitement des questions de migration. Si on remet du débat démocratique, donc on consulte les gens, je n'ai pas le sentiment, moi, que les gens qui participeront à ce débat démocratique iront dans le sens de cette tribune. »
Ouais,
le problème, effectivement,
Et c'est le problème de ce genre d'intellectuel aux idéologies gauchisantes, c'est que de toute façon, le peuple pense mal et qu'il faut l'éduquer et qu'il faut plutôt même le rééduquer parce qu'il n'est pas capable de comprendre les véritables enjeux.
Yael.
C'est ça le vrai problème, en fait, quand j'ai lu la tribune.
Juste un mot, Tania. Est-ce que vous ne pensez pas que la mise en place de ces conditions, des nouvelles conditions par Darmanin qui vont être extrêmement strictes, n'est pas là pour contourner l'interdiction des quotas, justement?
Ah bah si, effectivement, on en a bien l'impression que derrière,
c'est un peu du foutage de gueule, quoi.
Du foutage de gueule.
C'est moi qui l'ai dit.
Tania Rachaud. Tania Rachaud, rapidement.
Oui, non, ce qui moi m'a frappé depuis que je m'intéresse beaucoup aux migrations, c'est vraiment cette idée de décalage de la perception des personnes vis-à-vis de l'étranger. En France, on est à un décalage énorme, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'étrangers qu'il n'y a en réalité, et donc c'est 7% de la population en réalité, des étrangers en France, ce qui est donc pas tant que ça. Et bilan des courses, à force de mettre une loupe sur cette question, eh bien, il y a une opinion justement qui mériterait d'être davantage éclairée avec des chiffres réels. Moi-même, me penchant sur la question, j'ai été étonnée de ces éléments. Et donc, je vois pas le problème, justement, de proposer à des citoyens de revenir avec des études un petit peu plus claires sur la question et qu'ils soient pas simplement le positionnement des politiques de dire je suis pour, je suis contre. Parce que pour les politiques, c'est un sujet facile.
Et une fois qu'on aura été rééduqué, on ouvre les frontières parce que tout va bien.
Ouais, mais bon,
c'est l'idée globale de la tribune.
En tout cas, c'est ce que essaie de faire Tania Rachaud, de remettre les chiffres dans le bon sens. Elle est membre de Désinfox Migration, chercheuse associée en droit européen à l'Université de Paris-Saclay. Merci d'avoir été avec nous. On retourne au 32-16 pour retrouver Ali. Bonjour Ali.
Oui, allô, bonjour.
Salut Ali, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Ali, vous êtes routier en Moselle, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, Ali, est-ce qu'il faut durcir les conditions du regroupement familial?
Ben écoutez, je vais rien ajouter à ce que Mehdi a dit et la dame qui vient d'intervenir. Là. Les règles, elles sont déjà draconiennes. Moi, également, j'ai des membres de ma famille qui ont fait venir leur femme. Hein. Ben déjà, comme Mehdi l'a dit, hein, il faut un logement, un CDI, des fiches de paye. Il y a des visites de la préfecture. Et si
alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça, alors, le ministre de l'Intérieur?
Ben en fait, il veut flatter l'électorat de droite, d'extrême droite, je ne sais pas. Il est en campagne, hein, déjà. Mais parce que, déjà, tout est dans les textes de loi. Hein. Tout y est déjà. Donc on a vous.
Mais il veut durcir un petit peu quand même, monsieur. Il veut quand même un peu durcir aussi.
Oui, mais exactement, il va durcir comment alors? C'est quoi le but de durcir de... Dans quel sens? Déjà,
il a parlé notamment. Il a peut-être parlé d'un test de langue, de connaissance de connaissance des lois françaises de la République.
Bah, moi, c'est pas la première fois que j'entends dire ça. Je pensais même que c'était déjà le cas.
Hein, moi aussi, Ali, je pensais.
Vous avez bénéficié du regroupement familial il y a combien de temps?
Moi, j'ai bénéficié du regroupement familial. Écoutez, c'était en 2003. Vous voyez,
est-ce qu'il y a eu des tests de linguistique pour votre épouse?
À l'époque, non. Mais ma femme,
elle était
bien trompée. Et en fait, donc je vous disais, moi, à mon avis, monsieur Darmanin, il est en train de flatter l'électorat d'extrême droite. Parce que déjà, tous les textes de loi stipulent que si vous n'êtes pas vraiment dans les clous, votre dossier est retoqué. Voilà.
Ce que je ne comprends pas, Ali, si vous permettez, monsieur, ce que je ne comprends pas, c'est... Quel est le problème? Je ne comprends pas cet argument. Il veut séduire l'électorat d'extrême droite. Qu'est-ce que ça peut faire, en fait? S'il propose quelque chose qui semble
améliorer,
j'ai failli réutiliser l'expression oui, bon sens, quoi, pardon,
dans quel sens améliorer?
Ben, en fait, si il propose quelque chose que les gens qui voteront et qui reconduiront ce parti, ce gouvernement ou non, jugent bon pour la société française. Peu importe que c'est séduire tel ou tel électorat.
Oui, mais je comprends pas où est
le problème.
Mais ce que te dit Ali, ce que te dit Ali, on peut une image qui vaut ce qu'elle vaut, et ce que disait tout à l'heure Tania Rachaud, c'est que Gérald Darmanin nous dit il faut fermer la porte, mais la porte elle est déjà fermée.
C'est ça.
Donc pourquoi est-ce qu'il dit fermer la porte?
Visiblement, elle n'est pas assez fermée, puisque déjà le test de langue et le test de connaissance des valeurs de la République n'est pas encore à l'ordre du jour. S'il veut rajouter une condition, on verra bien. Ce sera voté à l'Assemblée ou ce ne sera pas voté à l'Assemblée? Les gens ont envie que ce soit plus dur ou ont envie que ce soit plus laxiste?
Merci.
Je comprends même pas le débat.
Merci Ali, moi je le comprends. Mais Ali, merci. Heureusement je le comprends. Sinon on l'aurait pas fait. Merci Ali d'avoir été avec nous. Ali qui nous a.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je comprends pas le reproche qu'on fait.
Oui,
je fais au débat.
Ouais. Mamadou, très rapidement. Mamadou qui nous appelle au 32-16. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans Estelle Midi. Vous nous appelez d'où, Mamadou ?
Je vous appelle de Paris, 13e.
Bon, on a peu de temps malheureusement, Mamadou, mais est-ce que, selon vous, il faut durcir les conditions du regroupement familial ?
Ben, j'aimerais bien savoir en quoi on peut la durcir, moi. Parce que ça existe, tout existe déjà. Parce que moi, en 2007, j'ai fait venir mon fils. Il est venu, mais tout ce qu'on a demandé existe déjà. Hein ? Et en plus, pour le français, ça existe déjà. Tu ne peux pas avoir une carte de chez vous sans passer un test de français. Voilà. Tout est faux. C'est du populisme, ça. C'est faux. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Quoi. Et j'ai un ami qui a même eu une bonne réponse ici. Il n'a pas eu de visa encore. Il a été obligé de faire un test ADN pour son fils, par le biais d'un avocat, pour que son fils y rentre.
Moi, j'en dis, quand j'entends Mamadou, quand j'entends Ali, quand j'entends Mehdi, quand j'entends ce que nous dit Tania Rachaud, je ne prends pas position, mais je me pose juste une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas, encore une fois, remettre les choses à l'endroit ? C'est-à-dire qu'on a des idées. Moi, j'ai le sentiment. En tout cas, je ne sais pas qui dit la vérité. Je ne sais pas qui est juste dans cette histoire. J'ai juste l'impression qu'il serait, en matière d'immigration, qu'il serait urgent et utile de refaire le point.
Le problème, c'est qu'on croit que ce genre de discours ou ce genre de mesures qui, pour la plupart, à 95% existent déjà, que quand on en parle, ce sont des propos contre les immigrés actuels. Ça n'a rien à voir. Mmh. C'est là qu'il faut faire attention. Mmh. Ceux qui, comme le monsieur qui vient de téléphoner, dit « Mais moi, en 2005, j'ai fait venir des gens et tout », il a respecté les lois. Hein ? Il est rentré, il avait un travail. S'il a respecté les lois, ça veut dire qu'on lui a donné le droit d'être en France. Mm-hmm. À partir du moment où il est là, personne n'est contre lui. Personne ne lui en veut à lui, comme le monsieur qui a téléphoné avant. C'est pas ça le problème.
C'est dans
l'avenir, peut-être effectivement que là, ceux qui ont dit « Mais ça existe, on peut pas durcir plus », là, ça, je l'entends. Peut-être que ça, effectivement, ça n'a de portée que sur un détail. D'accord.
Merci Ali Mamadou.
Mais faut pas tout mélanger.
Merci Ali Mamadou de nous avoir appelé au 32-16. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Alfred, faut-il durcir les conditions du regroupement familial comme le souhaite Gérald Darmanin ?
C'est un plébiscite. Vous répondez oui à 91%, non à 9%. Je finis par deux messages. Amine qui nous dit l'humanité se meurt et Damien, c'est normal et c'est ce qu'on demande à l'étranger. Pourquoi pas en France ?
Allez, dans un instant, comme tous les jours, c'est le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, c'est Estelle Midi sur RMC et RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Dans un instant, on va faire notre zapping, le meilleur du jour sur RMC. Mais avant cela, on s'est bien obligé. Et d'ailleurs, c'est un vrai plaisir. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Et j'ai à côté de moi Arnaud Bailleul. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes éleveur de bovins, producteur bio. On est dans le Pas-de-Calais. On l'ignorait, parce que moi j'habite aussi dans le Nord. Ce matin, on a pris le même TGV. On a pris celui de 6-18 à Arras.
C'est ça.
Parce que vous êtes juste à côté d'Arras, c'est ça ? Et vous venez nous présenter une crème dessert bio. C'est la ferme des Trois-Vallées, ça c'est votre ferme.
C'est ça.
Et la marque de ces yaourts, c'est Invitation à la ferme.
Alors voilà, donc nous on est là.
Attendez, je mets bien le micro, comme ça c'est.
Donc on est la ferme des Trois-Vallées, 90 hectares, 60 vaches laitières. On produit notre lait et on transforme notre lait sur place. Et il y a des choses qu'on peut faire tout seul, comme transformer le yaourt, le vendre autour de chez nous. Mais après, l'élaboration des recettes, le marketing, tout ça, c'est des choses qu'on va mettre en commun avec le réseau Invitation à la ferme.
Elle existe depuis combien de temps, cette marque ?
Alors, la marque a démarré en 2014.
D'accord.
Elle est plutôt née dans l'Ouest. Aujourd'hui, c'est 42 fermes sur la France entière. Et nous, on a rejoint ce réseau en 2018.
Ils sont déjà en train de coûter Daniel, Yael, Alfred également, et tu l'as fait Perico. T'as quoi toi, Daniel, t'as quoi ?
C'est
une crème de vanille sur
vanille caramel.
Je
vais pas dire à quoi ça ressemble parce que c'est un yaourt pas bon normalement, alors que celui-ci est très bon.
C'est un flambi
amélioré,
vrai.
Quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est une crème caramel. C'est
on est vanille sur lit de caramel.
Vanille sur lit de caramel.
Très très bien.
Très très bien. Et je peux vous dire, Arnaud Bailleul, connaissant parfaitement Daniel, vous le connaissez aussi, il a pas la sensation. Si c'était pas bon, il aurait dit. Lui, il a pas peur. Tiens, Perico, c'est comment ? Attention, critique culinaire.
C'est délicieux et on voit bien qu'on est sur un authentique produit fermier.
On a les produits du le lait, le troupeau de l'endroit, et c'est transformé, c'est élaboré avec des yaourts, une recette qu'on pourrait dire campagnarde ou familiale. On est dans l'authenticité absolue. C'est comme ça que l'agriculture française s'en sortira.
Oh, quelle
pas par
critique.
La grande industrie, mais par des paysans qui s'en sortent eux-mêmes et qui transforment sur place leurs produits et qui font face aux défis du temps. Et aux consommateurs de comprendre que l'avenir de la planète, elle est chez ces gens-là et pas chez les grands industriels et les distributeurs. Donc on est avec vous.
Bravo. Est-ce que c'est vendu plus cher du coup?
Non, du tout. Par exemple, le yaourt nature ici que vous avez, c'est 1,99 les 4 en grande surface. Ah, bah, donc bon.
1,99 les 4?
Oui, c'est ça.
D'accord,
donc on se trouve dans les mêmes
effectivement. Ouais, finalement. Ouais, ouais.
Bon, Arnaud, vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Vous avez vu?
Non.
Moi aussi,
j'imagine parce que
dans quel genre de supermarché dans quel supermarché on vous trouve en fait? Tous les supermarchés vous distribuent parce que la distribution, être dans le rayon, être dans les rayons, c'est ça aussi un des grands combats pour vous.
Aujourd'hui, en fait, le combat de nos fermes, c'est de faire le meilleur bilan carbone possible. Et du coup, ça veut dire. On va balayer toutes les enseignes qu'on peut où on peut vendre. On va toutes les GMS, les magasins spécialisés, les Biocop.
Ah donc vous on vous trouve
on va aussi en restauration collective.
On vous trouve pas au Carrefour ou au Monoprix?
Si. GMS c'est Carrefour, Intermarché, Leclerc. J'aurais pas dû citer de nom.
Non c'est pas grave.
C'est
très bien. Au moins on s'est trouvé assis parce que ceux qui nous écoutent et qui sont alléchés maintenant sauront où trouver vos produits. Ça s'appelle invitation à la ferme. Vous, c'est la ferme des Trois-Vallées. On est dans le Pas-de-Calais, à Trois-Vaux. Merci, Arnaud Bailleul, d'être venu
merci à vous.
Nous voir. Bah, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et beau salon à vous. Bon salon. Profitez bien de l'ambiance. Et puis, il y a plein de producteurs aussi à découvrir ici. Et nous, on est ici jusque vendredi au stand des Hauts-de-France. Vous pouvez également venir nous voir. Merci, Arnaud Bailleul.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On passe au zapping, le meilleur du jour sur RMC. On commence avec les GG. Faut-il déprogrammer les pièces écrites par Pierre Palmade? C'est très sérieux, je vais vous dire pourquoi. Parce que certaines villes commencent à déprogrammer des pièces écrites par l'humoriste, comme Il s'aime, par exemple, une pièce coécrite en 1996 avec Muriel Robin. Une décision que partage le chef d'entreprise des GG, Mehdi Guézard.
On est dans une société où on doit donner l'exemple. Et quel exemple on peut donner à notre jeunesse si actuellement on met en scène, on promouvoit une personne qui a fait un accident grave, gravissime sous l'usage de cocaïne, de stupéfiants, sous l'effet d'alcool, qui n'est pas sa première incartade. Que je rappelle qu'en 1995, il avait été déjà condamné pour usage de stupéfiants. En 1995, il avait été condamné déjà à 20 000 francs à l'époque. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que maintenant, on parle même de pédopornographie dans son entourage proche. Donc, tu peux pas me dire qu'on laisse en lumière et on continue à promouvoir une personne où tout ça lui est reproché en même temps. Et quelle image tu vas donner à des gamins ou à des adolescents qui vont le voir?
On parle bien de reproches, Yael. Est-ce que c'est pas un peu choquant déjà de déprogrammer des pièces de Pierre Palmade?
Moi, ça ne me choque pas. Pour moi, ça reflète la grosse colère que beaucoup ont, surtout en réalité en pensant à ce petit bébé qui est mort. Parce que voilà, c'est quand même, ça part quand même de là, l'histoire. C'est une femme qui a perdu son bébé à 7 mois de grossesse. C'est un petit garçon qui est défiguré. On part de familles qui sont complètement brisées aujourd'hui. C'est ça le début de cette sale histoire. Un homme connu qui prend la voiture complètement défoncée et qui rend sa voiture une arme de destruction. Donc oui, je peux comprendre que ce qui aurait pu passer pour un fait divers, il y en a beaucoup comme ça en France, tous les jours. Enfin, tous les jours. Pas tous les jours, heureusement, mais il y en a beaucoup. Mais là, on parle de quelqu'un de connu qui a fait ça manifestement pendant longtemps, puisqu'il l'a dit lui-même.
Et donc, la pièce coécrite par Pierre Palmade et Muriel Robin, on la censure, disparaît. Elle disparaît.
Mais c'est
on
pas,
la met à la poubelle, elle n'existe plus,
non,
on ne veut plus
ça,
la voir.
Donc, du coup, on condamne également Muriel Robin.
Ah oui.
Du coup, on condamne également tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Moi, je trouve ça absolument effrayant. La cancel culture, c'est de la dictature. Et Dieu sait que je n'ai pas, mais un centimètre, gramme de tout ce que vous voulez d'unité de mesure, d'indulgence pour ce qui s'est passé autour de cette affaire. Mais je trouve que ça n'a rien à voir. Si toi tu es mal à l'aise, si moi je suis mal à l'aise, si vous êtes mal à l'aise, effectivement, si je suis gêné, je ne la regarde pas la pièce, je n'y vais pas. Mais qu'un pouvoir, je ne sais pas d'où pourrait sortir ce pouvoir, une municipalité, un gouvernement, ou je ne sais quoi, prenne la mesure d'éliminer une œuvre comme ça, ça je trouve que c'est absolument effrayant. Ça, parce que évidemment on sait bien vers quel genre d'incohérence on va aller. Je suis sûr que Mehdi Ghezzar doit être un fan de Michael Jackson et il va avoir un problème si je lui dis on élimine les œuvres de Michael Jackson parce qu'il a dormi avec des enfants. Et la chaîne des incohérences, on ne va plus l'arrêter au bout d'un moment et on va se perdre complètement. Donc que chaque individu soit libre et responsable d'aller vers les œuvres qui lui semblent justes en fonction de l'artiste.
Perico.
On est tout à fait dans l'esprit de notre époque avec porte ouverte au totalitarisme et puis règlement de compte, la haine et la vengeance. Bon, il va payer ce qu'il a fait, est ignoble, personne ne justifie ce qu'il a fait. Mais on va s'en prendre à son œuvre d'art. Le problème a été réglé depuis longtemps. Louis Ferdinand Céline a écrit des livres absolument abominables, ignobles sur les Juifs. C'est un grand écrivain et ses livres sont toujours en vente. Les achète qui veut. Voilà.
Le problème n'a pas été réglé du tout. Je suis désolé.
Mais c'est pas ça.
C'est un problème philosophique qui est.
Mais Céline est toujours en vente. Céline est toujours en vente. Donc il n'est pas interdit.
Non,
mais si Céline est toujours en vente,
qui
Palma n'est pas interdit.
Si Céline est toujours en vente. On a affaire là à un problème philosophique qui est fondamental.
Oui, donc si Céline est toujours en vente, Palma est en dessous de Céline.
Oui, mais c'est pas parce que Céline est toujours en vente qu'on a arrêté le débat philosophique de la question de savoir.
D'accord, donc on ne se venge pas sur une œuvre d'art. Quand on est des démocrates, des libéraux, des humanistes.
Non, mais moi j'entends le débat et c'est intéressant. Vas-y,
parler.
Mais tu me permettras une question après, mais j'entends parce que ce que tu dis est intéressant.
Il s'agit là de c'est vraiment un débat philosophique qui est passionnant.
Et il faut qu'il ait lieu.
C'est la distinction entre l'homme et l'artiste.
Oui.
Et d'accord, c'est
d'accord.
Ça le problème.
Voilà.
Et cette distinction-là ne s'arrête pas à Céline. Elle se pose de manière récurrente. Elle s'est posée pour Polanski. Posée il n'y a pas très longtemps encore pour Bertrand Cantat. Après, si vous voulez, à partir du moment où un individu a eu la chance pendant un certain temps de s'exposer à la lumière, est devenu un personnage public, comme les Polanski.
Non, mais c'est pas le débat.
Tantas,
c'est pas le débat. On n'est pas en train de faire la promo de Palmade.
Non,
on demande est-ce qu'il faut jouer ses œuvres.
Voilà.
D'accord, mais restons sur le débat. Est-ce qu'il faut sanctionner ses œuvres?
C'est pas question de sanctions.
On dit pas est-ce qu'il faut excuser Palmade. Est-ce qu'il faut sanctionner ses œuvres?
Déjà, on n'est pas dans une censure publique. D'accord. Après, à partir du moment où quelqu'un s'expose à la lumière du public, il s'expose aussi.
Mais là, il
ne
s'agit pas d'exposer lui. Il s'agit de savoir si on joue ses œuvres.
Oui. Donc, c'est la possibilité pour des municipalités individuelles de prendre la décision elles-mêmes en leur âme et conscience d'arrêter la décision.
Alors moi ma question c'était qui va le décider?
Voilà.
En l'occurrence, tu donnes un élément de réponse. Voilà. Donc une mairie qui juge que c'est indécent de programmer ce spectacle parce que le gars est dans la tourmente.
Il n'est pas dans la tourmente, attention, c'est pas question d'être dans la.
Non,
c'est
enfin,
un peu au-delà de la tourmente.
D'accord. Okay,
il est dans la merde, on est d'accord.
Voilà. Non.
Moi je veux bien entendre le maire qui va faire ça. Mais je lui dis, tu condamnes l'autre co-auteur, tu condamnes tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Si c'est lui tout seul, pourquoi pas? À quel moment tu le fais? Est-ce que dans 10 ans, tu reprogrammes? Dans 20 ans? Dans 50 ans? En fait, tu vas être confronté à un tas de problèmes qui te conduiront à une incohérence, ou à un autre. Et moi, ça me gêne, parce qu'on ne peut pas décider une autorité suprême, sinon on va se diriger vers une dictature.
Et on avance. Apolline Matin, doit-on confier notre sécurité à des sociétés privées? À Toulouse, la municipalité autorise désormais des agents de sécurité privés à verbaliser les auteurs d'incivilités dans les HLM. Une mesure mise en place en soutien des policiers qui ne déplaît pas aux habitants du quartier Soupetard, rencontré par notre correspondant Jean-Wilfried Forquès.
Ça a l'air d'être utile. J'ai l'impression qu'il y a moins d'incivilité, moins de difficultés. C'est une manière de s'introduire dans les quartiers moins forte que la police.
Ne me dérange pas, moi j'en ai rien serré dans leur commerce. Mais enfin, depuis qu'ils sont là, il y en a beaucoup moins.
Perico.
Eh ben, si ça se limite vraiment à cette fonction-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr, si l'État, la municipalité, n'a plus l'autorité, les moyens d'assurer la tranquillité des citoyens, j'allais même dire des pauvres gens dont la vie est pourrie par des voyous et des bandits, il y a juste impunément, eh ben, s'il y a une milice...
Quel pouvoir on va leur donner?
Faut appeler, non, c'est une milice, hein, voilà.
Bah exactement. C'est en fait, on va être c'est les milices, c'est les milices de la mer, en fait.
Mais si elle se limite à la cage d'escalier, ça va. Mais alors ensuite,
bah oui, mais voilà. Et si dans la cage d'escalier, un mec lui répond, ça se termine en baston, et un des, je sais pas comment on les appelle, les miliciens, les flics, comment, les faux flics, je veux dire plutôt, il le laisse sur le carreau, il se passe quoi après? Quelle est l'étendue de son pouvoir de violence? Bah, si, la violence, il doit y avoir parce que.
Là, c'est verbalisation. Là, c'est verbalisation.
Mais oui, mais verbalisation, tu sais bien comment ça va se terminer.
Daniel, soyons précis.
C'est les risques du métier.
Quelqu'un qui est surpris dans le hall de l'immeuble en train de fumer une cigarette alors que c'est évidemment interdit.
Et oui, l'agent... et ça peut pas terminer en baston, un truc comme ça. Bah alors là t'es bien naïf Fermi. Moi je te dis ce truc là, pour moi c'est le village mexicain qui va chercher les sept mercenaires. Hein.
Oui mais bon, pourquoi on en est là Daniel?
Oui c'est ça.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais entre ça et laisser faire les autres, je veux pas.
Yael,
je préfère la sécurité.
Bah, moi ce que je préfère c'est une police qui fait son travail.
Ah alors, d'accord.
Bah oui mais idéalement, mais là ils sont un peu dépassés par les événements. Hein. Je veux dire bon, moi ce que j'ai entendu c'est des habitants qui ont l'air satisfaits. Ça leur fait du bien, ça les sécurise. Bon, écoutez, si on peut faire du bien en ce moment à des gens, bah on prend.
Allez.
Et ça crée des emplois.
Tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est la minute conso. On va retrouver Stéphane Pedrazzi qui vient d'arriver sur le stand des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, au Salon International de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. On se retrouve tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. C'est le pavillon 3, ce stand de très beau stand de la région Hauts-de-France. Notre table, là, notre table sur notre petit studio est en train de se remplir progressivement. Là, on vient de m'apporter des pop-corn. Alors, c'est très bien, c'est très original. La marque, c'est la Fabrique à Pop-Corn, Made in France, fabrication artisanale française. Là, j'ai des pop-corn saveur truffe.
Ah, ça, je ne savais pas que ça existait. Ben,
on va goûter, tiens, Alfred, je te donne un paquet.
Le pop-corn devient une alternative à la chips.
Ça nous vient du Var, je te laisse ouvrir et puis on va faire goûter tout le monde.
On va
et il va notamment goûter le pop-corn à la truffe. Il vient de nous rejoindre. C'est Stéphane Pedrazzi.
Salut Rémi.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
La Minute Conso avec Stéphane. Salut Stéphane. On va parler, tiens, de ce qui est peut-être certainement la prochaine grande révolution en matière de consommation. Perico, c'était mieux avant, écoute bien. La consigne est en train de faire son retour pour les emballages alimentaires.
Ah ben il était temps.
Oui, c'est un retour, effectivement, puisqu'on s'en souvient tous, dans les années 70, il y avait le système des boissons consignées, c'est-à-dire vous achetiez par exemple une bouteille de soda, elle était systématiquement en verre, et il fallait impérativement la rapporter chez le commerçant pour récupérer sa consigne. Après, vous connaissez la suite. La consigne, elle a pratiquement disparu. Il y a une région où elle a perduré un peu plus, c'est en Alsace, je suis désolé, c'est pas dans les Hauts-de-France. Les emballages plastiques, bien sûr, à usage unique, ont déferlé dans les magasins. Ils sont à l'origine d'une pollution considérable, maintenant on le sait. Rien que dans la restauration rapide, en France, les emballages jetables représentent 180 000 tonnes par an, c'est-à-dire 18 fois le poids de la Tour Eiffel. Évidemment, on comprend que certains réclament le retour de la consigne.
Mais ça va changer, puisque ces emballages vont être progressivement interdits.
Alors, techniquement, ils sont déjà partiellement interdits. C'est le cas dans les fast-foods depuis le début de l'année.
Vous savez, c'est le retour de la vaisselle en dur.
Les fast-foods doivent impérativement proposer de la vaisselle en dur pour la consommation sur place. Ça prend quand même du temps à se mettre en place. L'association Zero Waste est allée vérifier s'ils jouaient le jeu. 76% des McDo proposent de la vaisselle réutilisable, 41% des Burger King. Mais au global, il n'y a que 57% des fast-food qui utilisent des emballages jetables. Donc on voit bien que ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et pourtant, la réglementation, elle va continuer de se durcir jusqu'en 2040. Par exemple, dans deux ans, en 2025, les fast-food ne pourront plus du tout proposer des emballages jetables, même pour la consommation à emporter. Et donc là, effectivement, comme tu le disais Rémi, c'est une vraie révolution qui est en train de se dessiner, parce que ça va être extrêmement difficile à organiser.
Ouais, parce que concrètement, comment ça va fonctionner, c'est la question. Moi, je me souviens, on en a parlé hier quand tu m'as dit que tu allais aborder ce sujet aujourd'hui. Moi, je me souviens, Perico, moi, quand j'étais petit, voilà, je suis de 72, donc on va dire à la fin des années 70, je me
me souviens encore que j'habitais dans un quartier, il y avait une épicerie juste à côté de chez nous. Ma maman, elle nous achetait parfois de la limonade et je ramenais mes bouteilles de limonade une
fois. Bien sûr.
Elle me disait, va ramener ça
et
à Madame Dordain, qui était l'épicière.
Et tu gardais l'argent et t'achetais des bonbons avec.
Et ma mère me disait.
Non, mais moi j'en ai fait plein de trucs comme
ma
ça.
Ma mère me disait, tu peux garder la monnaie, tu t'achèteras des bonbons. Et voilà. Et est-ce qu'on va y revenir à ça?
Alors, moi, j'ai bouteilles, c'est sûr.
J'étais en Belgique ce week-end et je suis allé dans une supérette en Belgique. Et oui, il y a encore, je voyais les gens avec leurs caisses. Ils achetaient de la bière, ça c'est bizarre. Je pense qu'ils consomment avec modération, mais la bière, elle est encore
dans le nord, tu veux dire?
Non, en Belgique. Et la bière est encore, les bouteilles sont consignées.
Ouais, bien sûr.
Oui, alors les bouteilles, ça va, on va y revenir, ça c'était évident. Après, c'est plus compliqué pour les contenants avec de la nourriture.
Ah, oui.
Vous mangez un couscous, vous mangez un truc à emporter.
Ouais, tu vas pas ramener la boîte de conserve.
Alors, il va falloir ramener effectivement le contenant. Il va falloir qu'il soit réutilisable. Et il y a beaucoup de questions aujourd'hui auxquelles on sait pas répondre. Le gouvernement a lancé une concertation. C'est généralement ce qu'on fait quand on sait pas trop quoi faire, on demande aux gens d'exprimer leurs souhaits. Alors les questions par exemple, c'est est-ce qu'il faudra rapporter le contenant chez le commerçant où tu as acheté ton couscous ou ton steak tartare, ou est-ce que tu pourras le ramener chez n'importe quel commerçant. Voilà. Est-ce qu'il y aura des contenants standards qui pourront être ramenés n'importe où? Ça permettra effectivement un petit peu de souplesse dans le système. En fait, c'est la proposition de l'association Zero Waste. Eux, ils souhaitent qu'on ait des contenants standards, tous en verre, et qui pourraient être rapportés partout, y compris dans les grandes surfaces, qui auront l'obligation de les récupérer, même si vous n'avez pas acheté dans les magasins. On entend déjà la protestation des commerçants, évidemment, ça va être compliqué. Après, il y a des questions dont on ne connaît pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez l'intention de jouer le jeu, mais si vous laissez 50 centimes d'euros de consigne pour une boîte, est-ce que vous allez traverser la ville pour la rendre? Est-ce que vous allez, ou est-ce que vous allez faire 10 km en voiture pour aller rendre votre boîte, quoi?
C'est des habitudes à prendre. Moi, je pense qu'on avait l'habitude avant. Alors, c'est, au départ, quand c'est rentré en vigueur, je pense qu'on a eu du mal, et puis on s'y fait finalement. Alors, oui, ça prendra du temps, il faut s'organiser et tout. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Vous avez goûté le pop-corn?
Oui,
bien la truffe, surprenant. Je suis sûr que vous allez me dire c'est déstabilisant, mais
oui,
mais il faut goûter. Et il y en a d'autres.
J'en ai d'autres à la famille.
Commencer par l'autre en fait.
Eh ben, je vais te faire goûter vanille bourbon, tiens. La fabrique.
Voilà.
Popcorn.
C'est moi
dans le Var.
Popcorn sucré.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC. On se retrouve évidemment au même endroit demain. Stéphane, en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris, magasin bio qui baisse le rideau rayon des supermarchés qui se réduisent comme peau de chagrin. Pour
ça,
le
c'est
bio.
La demi-heure Périco.
La filière.
Parler,
la filière agricole bio est en pleine déconfiture. Le bio a-t-il encore un avenir dans notre pays? Vous nous appelez au 3216. C'est Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi, en direct du Salon de l'Agriculture.